Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, avec son président Jean-Marc Taureau-Lyon.
radio-imo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.
Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous. On vous souhaite une très très belle année 2022. Passion Logement 2022, votre tribune préférée, c'est aussi la chambre d'écho de la FNAIM, la Fédération Nationale de l'Immobilier, qui vous donne chaque mois des informations sur l'industrie immobilière, l'ensemble d'ailleurs des métiers de l'immobilier. Et je suis toujours accompagné de son président, Jean-Marc Taureau-Lyon. Bonjour Jean-Marc.
Bonjour Sylvain.
Et bonne année.
Bonne année à toi également et bonne année à Radio Immo.
Une année 2022 qui effectivement se présente plutôt bien, avec un peu de contraste cependant. En tout cas, sous le signe d'un certain nombre de victoires, on ne va pas bouder notre plaisir dans une certaine mesure, bien évidemment. Mais je vous propose, Jean-Marc, de commencer par un sujet qui est un sujet hyper important. Parce que tout au long de l'année 2021 et au long de l'année 2020, il y a eu l'incursion. Alors parfois il faut s'en réjouir, mais parfois on peut les observer avec un peu de vigilance, des plateformes qui se sont imaginées qu'on pouvait totalement dématérialiser la fonction de syndic. Je caricature un peu, mais c'est un peu ça. Mais surtout avec un angle d'attaque qui était un angle d'attaque un peu, on va dire, discourtois, hein, pour dire les choses comme celle-ci, proche de la concurrence déloyale, de messages trompeurs, et l'industrie immobilière a obtenu une grande victoire, qui est quelque chose de symbolique. Un jugement a été rendu par le tribunal de commerce, il n'y a pas si longtemps, c'était le 24 janvier, sur l'affaire de Matera. Matera, vous savez, cette fameuse plateforme qui avait fait une campagne qui s'appelait Merci Syndic, quand il y a une fuite d'eau, c'est bien, ça rafraîchit, avec des messages très, très, très forts, en fustigeant notamment des grandes entreprises comme Foncia et autres. Une initiative a été prise par trois personnes mises en qui étaient dans la cause, hein, qui ont attaqué. C'est l'Association nationale des gestionnaires de copropriété, représentée par Gilles Frémont, le Syndicat national des professions de l'immobilier, donc animé par Monsieur Dufou, et Foncia. Et la victoire.
Et la chambre FNAIM Île-de-France.
Ah pardon, la chambre FNAIM Île-de-France.
Avec Olivier Principal qui en était l'acteur principal.
Vous avez gagné.
Ouais.
Ils ont été condamnés. Ils ont été condamnés et je voudrais vraiment qu'on marque un coup là-dessus parce que c'est une... Alors toute la presse en a parlé bien évidemment. Et d'ailleurs vous retrouverez toutes les informations les amis sur le site de Radio Immo mais aussi sur les liens avec nos amis et confrères de la presse. Concurrence déloyale. Pratique concurrentielle déloyale. Pratique trompeuse, donc ça va quand même plutôt fort, de 20 000 euros à 10 000 euros d'indemnité et 5 000 euros au titre de l'article 700 à chacune des parties. On ne peut pas dire que c'est une petite condamnation. Commentaire.
Non, on ne peut pas dire que c'est une petite condamnation et je précise que l'UNIS et la FNAIM, au niveau donc, des structures fédérales, ont par ailleurs une procédure en cours devant le judiciaire. Il s'agit là d'une décision en premier ressort du tribunal de commerce de Paris. Et elle est intéressante d'abord, dans le détail, parce que il y a bien pour ce tribunal une notion de tromperie du consommateur au travers du message publicitaire. Et il y avait bien aussi une concurrence déloyale au travers d'un dénigrement, notamment un dénigrement, soyons clairs, des cabinets de syndic. Et moi, je suis très heureux de cette sanction parce que elle peut réfléchir aussi d'autres. C'est-à-dire que on n'arrive pas sur un marché en ayant la prétention, avant d'avoir prouvé quoi que ce soit en termes de valeur ajoutée, en insultant ceux qui sont en place, en ayant la prétention de les dénigrer et en ayant cette suffisance qui consiste à dire « vous allez voir ce que vous allez voir parce que vous, vous n'avez rien compris ». Et je pense que c'est valable peut-être pour d'autres acteurs dans la transaction, je ne veux pas citer de nom, mais voilà, qui, là aussi, ont la prétention, c'est très à la mode, de tout révolutionner, en partant d'un dénigrement systématique de ceux qui font cette profession depuis plusieurs dizaines d'années, et qui est finalement cette méthode qui consiste à faire le buzz pour lever des fonds, en pratiquant le dénigrement, c'est-à-dire en ayant une forme d'autopublicité par cette façon d'agir, elle est sanctionnée. Et moi, j'en suis très heureux. J'en suis très heureux pour les milliers de collaborateurs qui font des assemblées générales en ce moment. J'en suis très heureux pour l'ensemble des cabinets syndics de la France qui ont fait la démonstration qu'ils étaient capables d'accompagner depuis 1965 un parc de copropriété qui est passé de 800 000 logements à 10 millions de logements et qui en détiennent 92% dans l'administration. Tout n'est pas parfait chez nous, mais à un moment donné, moi j'ai envie de dire, commence par travailler et puis après on verra.
Alors, Raphaël Di Meglio, je ne sais pas trop le prononcer, Di Meglio, il me pardonnera d'ailleurs si j'écorche son nom. On peut le comprendre, c'est un peu la règle du jeu. Se réjouit de cette condamnation parce qu'il estime finalement que quelque part, on n'est pas revenu sur le fond de son activité. Parce qu'effectivement, dans le jugement, on voit bien que le jugement fustige le côté trompeur de l'offre, du mécanisme ou du marketing de l'offre, et dénonce clairement un langage agressif qui pourrait passer d'ailleurs aux États-Unis quand on voit par exemple les campagnes américaines, mais ce n'est pas du tout le cas en France, sur la concurrence de loyers. Par exemple, voilà, j'ai pris le cas des fuites, mais j'ai pris aussi le cas du chauffage, j'ai pris le cas avec et puis une orientation sur des entreprises. On voit bien que quand Foncia se sent visé, c'est très très clair dans la démarche. Par contre, dans ce même jugement, on voit bien que la plateforme en elle-même, il n'y a pas de sujet, ça fonctionne. Il n'y a pas une remise en cause du modèle d'exploitation. Quel est votre avis justement sur ce modèle d'exploitation ?
Je pense qu'il faut, il faut pas surinterpréter ce jugement. Ce jugement, il a sanctionné une façon de s'adresser aux consommateurs qui étaient trompeuses, c'est net. D'accord. En revanche, il n'a pas sanctionné, par exemple, le caractère illégal de l'exercice d'une profession de syndic. Selon cette décision, sur une subtilité sémantique dont on verra si elle tient devant le tribunal judiciaire. Parce que nous poursuivons également ce fondement-là devant le tribunal judiciaire, indépendamment du tribunal de commerce. Donc, je pense quand même que... J'ai lu la communication de Matera, et elle est d'ailleurs très maladroite, parce qu'elle prend à partie les juges, elle nous cantonne au XVIIIe siècle. Je le trouve mauvais perdant.
On peut même dire qu'il y a une certaine arrogance.
Oui, je le trouve mauvais perdant. Ouais. Je le trouve mauvais perdant. Mm-hmm. Je serais pas fier devant mes actionnaires d'avoir été sanctionné sur la tromperie du consommateur quand on prétend finalement... faire mieux que les syndics professionnels.
Bien sûr.
Je ne crois pas que les syndics professionnels aient été condamnés pour tromperie devant le consommateur. Voilà. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut remettre l'église au centre du village, passez-moi cette expression-là. Et moi, je n'ai rien contre les syndics bénévoles. Je n'ai rien contre des plateformes qui assisteraient ces syndics bénévoles dans le cadre des compétences qui sont les leurs. En revanche, un peu de transparence dans la réalité d'un service, ce n'est pas inintéressant. Moi, je voudrais dire une chose aussi, c'est qu'on a les premiers retours de Matera. C'est-à-dire qu'on a les premiers exemples d'immeubles qui, au bout de 2 ans, reviennent chez les syndics professionnels. Mmh. On a des syndics professionnels pour lesquels Matera a été choisi comme fournisseur pour un syndic bénévole. Ça fait 6 mois qu'on n'a pas eu la demande des comptes, des fonds. Oui. Donc, moi, je crois que...
Vous voulez dire qu'avec le temps, dans l'usage, arriver une offre qui était effectivement assez alléchante en termes de fluidité, va se retourner finalement contre eux.
Oui, non, mais je dis comme toujours que le métier de syndic est un métier difficile et tout fournisseur sur ce métier, que Matera n'est qu'un fournisseur, avec tout le respect que j'ai pour tous nos fournisseurs, doit l'aborder avec beaucoup d'humilité. Et avant de donner des leçons, voilà, commençons par travailler proprement. Nous, on a un code d'éthique et de déontologie. Force est de constater que Matera n'a pas respecté le sien, si tant est qu'il en avait un.
Sur la question, justement, juste pour bien enfoncer le clou, sur la question de la nature de l'exploitation de ces plateformes, quelle est votre position politiquement au niveau métier ? Est-ce que, vous dites, ces plateformes sont appelées à disparaître en tant que telles ? Ou est-ce que le modèle que propose... Alors, ce n'est pas le modèle de Matera. La structure du modèle de Matera peut être une offre complémentaire au marché actuel. Notamment sur le fait que vous avez... Et c'est sous votre mandature que ça s'est fait. Vous avez fait inscrire dans la loi les titres correspondant à l'éligibilité des titres. Donc, agent immobilier, syndic de copropriété et administrateur de biens.
Je crois d'abord qu'on est en train de mesurer toute l'importance au fil du temps de la protection de ces dénominations et leur impact progressif que cela a sur l'architecture globale de l'exercice de nos métiers.
Donc vous n'êtes pas pour la disparition de ces plateformes ?
Mais moi, je ne suis pas pour la disparition de plateformes qui correspondent à une réalité juridique d'un syndic bénévole ou d'un syndic coopératif. D'accord. Mais moi, je veux dire autre chose, Sylvain. Ces plateformes, ce n'est pas Matera qui sera le seul acteur. Je pense que les professionnels feront ces plateformes. Je pense qu'en réalité, et moi ça fait très longtemps que je le dis, nous serons capables demain d'être sur tous les segments du marché. Nous serons capables d'être sur le segment d'une plateforme d'assistance aux syndics coopératifs qui ne souhaitent pas avoir un syndic professionnel à leur tête, mais avoir une structure professionnalisante de leur métier. Et nous serons capables d'avoir le service complet. Moi, je peux choquer certains syndics professionnels quand on dit ça, mais moi, ma devise d'entrepreneur et ma devise syndicale, c'est ne rien s'interdire. Et en réalité, on avait déjà développé des syndics en ligne. Ils avaient été un peu décriés par la profession. Je crois que c'est un tort aussi. Je pense qu'on n'est qu'au début d'une toute une série d'innovations qu'apporteront les syndics professionnels. Donc vous verrez que l'innovation, elle viendra d'acteurs de terrain et des syndics professionnels.
Ça a le mérite d'être clair. Deuxième sujet, effectivement, on peut s'en réjouir. Contre toute attente, il faut quand même le dire. Donc, ceci s'adresse aussi aux prophètes et aux charlatans qui ont préconisé un arrêt brutal du marché et autres. 2021 a vu un chiffre absolument incroyable. On pensait avoir atteint des sommets en 2019 et en 2020 même, malgré le confinement. Et l'année 2021 se stabilise avec une année record, avec plus d'1,2 million de transactions dans l'immobilier résidentiel ancien et en France. Le marché reste dynamique en ce début d'année 2022. C'est ce que vous avez indiqué lors de votre bilan annuel mercredi. Réflexion d'un professionnel. Qu'est-ce qui se passe ? Les Français, on ne sait pas, c'est de la résidence d'actifs. Comment se fait-il que l'immobilier est en termes d'allocation d'actifs reste aussi préféré des Français. C'est sans appel. Hein.
Alors c'est sans appel. Alors on pourrait tirer des conclusions purement économiques avec une inflation à 2,8 quand vous empruntez à 1 et un actif qui se revalorise à 7 avec une rentabilité moyenne de 4.
Oui, c'est clair. Oui, oui.
Voilà, vous avez une démonstration. J'ai presque envie de dire les chiffres
éclatent. Vous avez des CPI qui performent comme jamais.
Donc, on a cet aspect des choses. Mais je pense que ce serait un peu facile que de se cantonner qu'à cela, parce que je pense que ce mouvement-là est un mouvement de fond qui est accompagné naturellement par des taux bas et puis un effet revenu qui, quoi qu'on en dise, a préservé, voire accru le pouvoir d'achat sur beaucoup de secteurs en France. La dynamique de marché, 1,2 million transactions, elle est sur tous les territoires. Je prends un exemple, la Creuse, plus 30% de transactions.
Oui. Hein,
voilà.
Ou la Bretagne, plus 41%, c'est incroyable.
Et toute la façade ouest. Oui. Donc on a effectivement...
Et les grandes métropoles, paradoxalement, elles sont plutôt atones, plutôt stabilisantes.
Et notamment au niveau des prix. Alors ensuite, on a fait quelque chose, à mon sens, de très intéressant, et j'allais dire, démontre qu'il y a bien un changement d'attitude de nos acquéreurs. On a comparé, Sylvain, les prix, l'évolution des prix 18 mois avant le premier confinement et 18 mois après la fin du premier confinement, sur toute une série de segments du marché. Pourquoi 18 mois après ? Parce que ça nous amenait justement à notre conférence de presse. Dans les maisons. 18 mois avant le début du premier confinement, les maisons ont augmenté de 6,1% en termes de prix. 18 mois après le premier confinement, plus 13. Paris, intramuros. 18 mois avant le premier confinement, plus 12,8. 18 mois après, 0. 0,9.
Comment vous l'expliquez alors ?
Les communes rurales. Augmentation à un chiffre 18 mois avant, 5,7. Augmentation à deux chiffres sur les 28 000 communes rurales de France.
18
mois après, 11,2. Les 100 premières villes moyennes de France, même chose. Et quand on regarde alors les stations balnéaires, pour illustrer l'attrait de la résidence secondaire, on est passé de 7 à plus 18. Donc on voit bien finalement un mouvement aussi d'expression du marché. J'ai dit que le marché avait voté, on avait commencé ce quinquennat sous la métropolisation. On finit ce quinquennat sur la démétropolisation et on a un marché qui a voté et qui vote la périurbanité, la ruralité et les villes moyennes. Je dis ça à un moment précis d'élection présidentielle de la France où ça doit interpeller.
Ça, c'est clair, c'est très clair. Est-ce que c'est l'effet Covid ? Ou est-ce que c'est un accéléré ? Est-ce que le Covid n'a fait qu'accélérer un mouvement urbain ?
Alors, je pense qu'il y a un effet Covid quand même. Est-ce qu'on a... Est-ce que c'est... Enfin,
Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de mettre une cause, mais...
Non, il y a un effet Covid, et c'est la sanction d'une politique de zonage.
C'est ça.
C'est pas ça que les Français veulent. Finalement, les Français, ils aspirent à vivre sur tout le territoire. Et ce qui est intéressant dans la démarche, parce qu'on a fait un sondage jeune pour cette conférence de presse, c'est pas la... c'est pas... Ce qui vient en premier, c'est périurbanité, ruralité... et ensuite, pour 28% d'entre eux seulement, métropole. Donc on voit bien aussi que cette expression, elle traverse toutes les générations. Mais ce qui est très important, je viens d'être renommé, réélu au COMEX du MEDEF, et je faisais cette réflexion-là, je leur disais, le triptyque logement, emploi, transport est cassé. Je pense que c'est la dissociation... prononcé entre logement et emploi. C'est-à-dire que c'est sans doute une façon aussi d'aborder son chez-soi un petit peu différemment que d'être finalement en métropole à côté de son travail. Et ça doit interpeller la politique d'aménagement du territoire, ça doit interpeller également la façon dont demain on concevra nos postes de travail, ça interpelle également, et c'est peut-être une chance au fond, de mettre un frein, un coup d'arrêt à ce phénomène de désertification lié à cette fameuse diagonale de la vacance où 100 000 logements étaient vacants de plus par an en France, par un phénomène d'aspiration sur des zones tendues dont on ne savait pas finalement comment les détendre. Ben, il semblerait quand même que le marché s'exprime différemment. Et j'avais eu l'occasion de dire, c'est peut-être pas la peine d'encadrer les loyers à partir du moment où les gens vont quitter les villes, mais il ne faut pas exagérer le mouvement non plus. Il y a un rééquilibrage en place et c'est une bonne nouvelle. Vous savez pourquoi c'est une bonne nouvelle ? Parce que les prix augmentent aussi dans les villes moyennes et les zones rurales. Et ça, c'est bien, parce que quand on veut faire de la rénovation énergétique...
Tout à fait, absolument.
Quand on veut faire de la rénovation énergétique, si on doit dépenser 20 000 euros pour rénover un appartement qui vaut 45 000 euros, on n'a peut-être pas la même motivation que si jamais cet appartement vaut 80 000 euros, finalement.
Vous avez absolument raison. D'ailleurs, nous étions avec mon confrère du Figaro, Olivier Marin, chez qui vous étiez le 12, dans le club Imo, on va en parler d'ailleurs tout à l'heure, à Brest, et on a vu un prix intramuros qui était passé il n'y a pas si longtemps, 2-3 ans, à 900 euros du mètre carré en centre-ville, à 2 800 euros en centre-ville. Donc on voit bien qu'en fait...
Plus 18% cette année, Brest.
D'ailleurs, c'est intéressant parce que le maire François Cuyandre nous dit c'est très positif l'augmentation parce que du coup, on a des actifs qui reprennent en tant que valeur. Donc du coup... pour la rénovation énergétique, pour l'amélioration de la ville. Et pour la première fois depuis 1975, Brest est passé sur une courbe démographique positive. Parce que dans ce que vous disiez tout à l'heure, vous avez parlé des 100 premières villes de France. Les 100 villes de France, qu'on appelle, effectivement, si on devait faire une punchline, c'est l'année de la périurbanité. Et donc vous avez raison, puisque plus de la moitié ont retrouvé des couleurs démographiques, effectivement. Et vous avez la raison. Alors... c'est votre dernière année de mandat, Jean-Marc Torollion, et c'est une année stratégique, puisque c'est aussi l'année des élections présidentielles. Donc ça tombe finalement assez bien, on sait que...
Celle de la France, vous voulez dire ?
Oui, bien sûr. On sait que vous n'avez pas de projet de vous présenter aux présidentielles, non ?
Laquelle ? Pas de la FNIM, mon mandat est non reconductible. Non. Et
aux élections de la France, non ?
Je n'ai pas cette prétention-là.
D'accord. Bon, en ce moment, c'est un peu l'inflation de candidats. Trêve de plaisanterie, l'idée, c'est que vous avez défendu, et vous savez que nous, on vous soutient parce que vous avez fondamentalement raison, il y a un vrai fléau social dans notre pays. On en a beaucoup parlé dans certaines tribunes, notamment ce qu'on a fait avec Pluriante sur les ambitions de la politique du logement 2022-2027. Une absence totale dans le débat public d'une politique du logement. Et vous soutenez, vous étiez exprimé au micro d'Olivier Marin, il faut une politique territoriale du logement. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Qu'entendez-vous par cette politique territoriale du logement, notamment sur le pouvoir des territoires, des maires, des métropoles ? Et deux, quel constat faites-vous encore sur les derniers débats qui ont eu lieu avec certains candidats à la présidentielle de la France, où on voit bien que le logement, encore une fois, n'est pas présent dans leur discours.
Le logement n'est pas présent dans leur discours parce que pour la première fois, l'enjeu, c'est le logement existant et non pas le neuf et le logement social. Tous les élus sont toujours très bons pour vous expliquer le logement social parce qu'ils y ont tous travaillé ou ils ont tous de près, une action. En revanche, ils sont évidemment sur le neuf très impliqués. Mais on a quand même un problème fondamental dans ce pays, c'est qu'on a des maires qui aujourd'hui sont en décroissance, osons le mot, sur la construction de logements neufs, et ça irrigue aussi les mentalités des autres maires qui voudraient bien bâtir. On est donc sur une spirale, à mon sens, extrêmement dangereuse. Mais à côté de cela, donc le neuf et le logement social, tiens, il va falloir qu'on parle des 30 millions de logements sur lequel on a pris des dispositions majeures en termes de financières, en termes notamment de rénovation énergétique et de rééquilibrage de politique territoriale. Donc, notre volonté, c'est d'impliquer à la fois les candidats à la présidentielle, mais aussi les élus locaux, sur les enjeux de cette politique territoriale. Pourquoi je dis politique territoriale ? Parce que quand on voit l'expression du marché, au fond, qui est une demande d'extra-urbanité et qui est une demande de ville moyenne, voire de ruralité, eh bien, il faut s'en réjouir et il faut les accueillir. Il faut s'en réjouir parce qu'il y a énormément de choses à réhabiliter et il faut les accueillir parce qu'on peut maîtriser une construction, y compris dans ces villes-là, et c'est une bonne nouvelle. Mais en même temps, je crois aussi qu'il faut se pencher beaucoup plus sur le logement existant de la façon suivante. Je pense que tous les maires devraient d'urgence dresser la cartographie de l'indécence énergétique des logements de leur commune. Et ils seraient surpris.
Est-ce qu'ils ont la possibilité de le faire ?
Eh bien, nous leur offrons la possibilité de le faire.
D'accord.
Nous sommes syndics.
Quand on pose la question aux maires, on dit voilà, ils sont dans une difficulté de ressources pour identifier effectivement...
Je pense que tous les maires des villes moyennes et des grandes villes devraient d'urgence s'adresser aux syndics professionnels de leur commune pour faire un bilan de l'état d'entretien des copropriétés de leur ville. Je pense que dans leurs orientations d'aménagement programmées, les fameuses OAP, ils devraient d'ores et déjà avoir une politique, enfin une inflexion réglementaire sur la rénovation énergétique. Je pense que dans ces mêmes OAP, ils devraient avoir relevé tous les immeubles susceptibles d'être surélevés. Pourquoi ? Parce que la surélévation, c'est densifier la ville existante, tout en procurant un revenu pour faire de la rénovation énergétique. Je pense également qu'il faut... Je pense qu'en France, on ne manque pas de terrain à bâtir. Vous savez de quoi on manque ? De droit à construire. La réalité, c'est que...
Donc vous dites, en substance, c'est pas, le problème, le foncier, ce n'est pas un sujet. C'est surtout, en fait, la norme et l'opération de construire.
Commençons déjà à faire en sorte que les maires accordent l'intégralité des droits à construire des terrains qu'ils ont eux-mêmes classés constructibles. Mmh. Moi, je milite pour des zones à densité minimum en ville. Il faut réconcilier les Français avec la densité. Mais il ne faut pas oublier qu'ils ont quand même le souhait d'avoir une périurbanité.
C'est pas évident de convaincre quelqu'un qui est au troisième étage, au troisième et dernier étage, de lui dire qu'il va y avoir deux étages supplémentaires, parce que c'est là que le pouvoir du maire s'arrête, quelque part. Puisque c'est la volonté souveraine de la copropriété, des copropriétaires, de vouloir surélever. On sait qu'il y a un refus, on sait que les panels ne sont pas bons. Et la loi sur la surélévation qui a permis la surélévation, on le voit bien à Paris, ça n'a pas été une réussite en soi. En volume, j'entends.
Oui. Alors,
il y a eu de belles réalisations, mais...
À Paris, quand on lève la tête, on voit qu'au fil du temps, il y en a eu des immeubles.
Oui, il y a de très belles réalisations, mais de façon systémique, de façon macroéconomique, le sujet, en fait... Parce que dans ce que vous dites aussi, Jean-Marc, il faut aussi signaler qu'on a un vrai problème d'accès au logement dans ce pays. Pour des jeunes foyers qui arrivent en ville, qui sont obligés de s'expatrier en lointaine banlieue, 3e, 4e, 5e couronne, c'est l'enfer. Et donc on voit bien d'ailleurs que dans l'effet Covid, il y a aussi la prise de conscience qu'on a eu des usagers qui en ont eu marre de faire 2 heures de transport aller, 2 heures de transport retour, et qui ont fait le choix d'une vie différente dans des villes plus apaisées, plus harmonieuses, où on ne met pas une heure pour faire 10 kilomètres.
Oui, je pense que le choix, c'est autre chose aussi. Oui. Il y a un vrai choix de sécurité.
De sécurité.
Oui. Mais je vais répondre après sur la surélévation. Mais dans le sondage sur les jeunes, vous savez que dans les critères de votre futur logement, quel est le premier critère ? À 96%, la sécurité.
La sécurité, mais qu'est-ce qu'on entend par sécurité ?
Ce qu'on entend par la sécurité, c'est la sécurité. La sécurité des biens et des personnes.
Ah oui.
D'accord. Le deuxième critère... C'est l'accès à la nature et un cadre apaisé. Ce qui rejoint exactement ce que vous venez de dire.
Tout à fait.
Et qui n'est pas loin de la sécurité.
Tout à fait. Un bien-être.
Un bien-être.
Oui.
Donc, la ville est la...
Quitte à gagner moins, d'ailleurs, hein, je précise.
Et la ville, finalement, elle est aujourd'hui, elle n'a pas une bonne image. Elle n'est pas, elle n'apparaît pas comme étant, finalement, apaisée et sécurisée.
Absolument. Absolument.
Et ça, c'est, quand je dis élus locaux, là, on est sur le...
Très juste.
On est, voilà. Et
la ville fait peur. La ville est génératrice de stress.
Et en fait, finalement, je peux comprendre un certain nombre de maires qui disent on va quand même arrêter de construire, parce qu'il va falloir... faut quand même qu'on gère
bien sûr
un quotidien qui s'impose à nous. Mais ça, c'est très dangereux. Mais là, l'État a un rôle aussi. Hein. C'est une politique d'ensemble. Sur la surélévation, prenons l'exemple que vous venez d'avoir, Sylvain. Trois étages et on surélève. Trois étages, il n'y a pas d'ascenseur. Trois étages, c'est un immeuble assez simple, à mon avis, dans ses parties communes. Si on le surélève de trois étages, si mon appartement qui est au dernier étage est classé G, et qui doit dépenser 30 ou 40 000 euros pour passer D, et que par la surélévation, je lui amène, en tout cas à un coût raisonnable, et un classement D, et un ascenseur, et on relook son immeuble...
Il gagne en valeur.
On réfléchit.
Vous voulez dire qu'il gagne en valeur?
Ça se vend.
Okay.
On gagne en valeur.
Mais ça se vend sur quelle durée?
On gagne en valeur. Ça peut se vendre sur une durée de 10 ans. Enfin, ça se vend. Je veux dire, je reviendrai sur les plans pluriannuels de travaux. Donc, ça se vend. Donc, encore une fois, je crois aussi que les promoteurs doivent s'y retrouver en termes de coûts, naturellement. Mais les promoteurs peuvent développer un savoir-faire. Et cette alliance entre surélévation, rénovation, je ne veux pas la surdimensionner. Je veux simplement que les maires, par principe, disent sur tel immeuble... Par principe, nous sommes favorables à sa surélévation. Ce qui déjà permet d'intégrer pour les syndics cette possibilité-là. Et dans la perspective d'une vaste opération de rénovation-entretien du parc privé de copropriété, eh bien, c'est une solution qui est offerte aux copropriétaires. Ils la prennent ou ils ne la prennent pas, mais elle est offerte.
C'est très clair. Le volet politique des candidats, d'ailleurs on a du mal même à stabiliser le nombre de candidats qui se déclarent tellement il y a de l'inflation, on en a interpellé un certain nombre, d'ailleurs ils vont quasiment tous venir s'exprimer, et c'est logique dans une certaine mesure. Quand on leur pose la question sur la politique du logement, ils globalisent cette politique de logement liée, alors par tant celui-ci, je prends, c'est Yannick Jadot, hein, c'est Yannick Jadot qui dit, voilà, c'est lié à l'environnement, donc c'est lié à l'impact écologique, et vous avez, qui ont une vision plus économique, mais dans l'ensemble, on ne voit pas d'innovation en matière de volonté politique du logement, et quand on leur pose la question, seriez-vous favorable à un grand ministère de l'habitat ou de la politique de peuplement qui, en fait, a eu existé dans notre pays avec une politique de remembrement. Je fais surtout allusion au premier mandat du général de Gaulle. On voit bien une absence presque de prise de conscience. Bon, c'est un peu une carte à la crème que je dis, parce que c'était pareil il y a 5 ans, avec quand Macron est arrivé au pouvoir. C'était pareil sous François Hollande et sous Nicolas Sarkozy. Pourquoi on en est toujours là, Jean-Marc? Pourquoi vous n'arrivez pas, vous, syndicats, en plus vous les connaissez tous, les ministres viennent chez vous, vous étiez à Matignon il n'y a pas si longtemps, pourquoi ça ne décolle pas? Pourquoi il n'y a pas quelque chose de très anglais, de très centré? Il y a 5 millions de personnes mal logées dans ce pays, plus de 2,5 millions qui sont inscrites sur des logements, pour des logements sociaux. Les 66% du parc privé locatif assument une fonction sociale, puisque les critères d'éligibilité logent les personnes dans le parc privé alors qu'ils pourraient aller dans le parc social. Comment on fait pour essayer de trouver des solutions adaptées?
Alors, moi,
parce que vous n'avez que la limite de vos pouvoirs, Jean-Marc Torolli, en tant que syndicat.
Évidemment, nous ne sommes pas le ministère du Logement, nous n'avons pas cette prétention-là, nous sommes simplement, j'allais dire, un partenaire d'un certain éclairage.
Mais qu'est-ce qu'ils vous disent, ces candidats? Qu'est-ce qu'ils vous disent?
D'un certain éclairage. Je pense que, encore une fois, alors d'abord, crise du logement, quand on regarde finalement l'année 2021, on a un marché dynamique. Il y a 1,2 million transactions. Quand vous êtes un homme politique, finalement, ou une femme politique, vous voyez un marché qui s'exprime d'une façon dynamique. Vous avez, un marché locatif qui fonctionne plutôt correctement. Et vous avez des élus locaux qui, suite aux dernières élections, freine en termes de production de logements neufs. Mais on est malgré tout un des pays les plus dynamiques en termes de marché en Europe, après la Grande-Bretagne, avec une hausse des prix moyenne de 7%, mais qui n'est pas aussi forte que dans d'autres pays. Et je pense que nos hommes et femmes politiques n'ont pas une idée claire des piliers qu'ils veulent actionner dans la politique du logement en France. Il y a 4 piliers. Je crois que je l'ai déjà dit à ce micro.
Oui, tout à fait.
Il y a le logement social, il y a le parc privé locatif, il y a l'accession et il y a l'aide personnelle. C'est ça les 4 piliers.
Oui, tout à fait.
Et je trouve que sur chaque pilier, le futur gouvernement, le futur président ou la future présidente
maîtrise pas le sujet.
Devrait avoir une vision. Et je pense que cette vision, moi je la donne, la vision doit être sur le logement existant et le parc privé locatif. Je ne dis pas que le logement social, ce n'est pas important. Je ne dis pas que l'accession, ce n'est pas important. Mais ce qui est important, c'est de loger et de mobiliser l'épargne pour loger. Si ce pays avait l'ambition d'avoir 1 million de logements locatifs privés en plus, en les orientant, qui plus est, sur un loyer maîtrisé, France entière, et non pas focalisé en zone tendue, on aurait des parcours résidentiels qui seraient remarquables pour tous nos jeunes, et on n'a pas forcément l'obligation d'avoir une course à l'accession. Moi, je pense qu'il ne faut pas fabriquer de propriétaires pauvres dans ce pays. Il faut fabriquer des propriétaires qui auront les moyens d'entretenir leur parc, leur logement. Il y a autre chose. La loi Climat et Résilience a voté les plans pluriannuels de travaux qui vont concerner 500 000 copropriétés en France. Ces plans pluriannuels de travaux, soit on en fait quelque chose, soit on n'en fait rien. Il est prévu que dès lors que l'élaboration est obligatoire, ils sont votés ou pas votés. S'ils sont votés, ils sont inscrits au registre de la copropriété. On revient avec ce qu'avait prévu par anticipation Cécile Duflot, tout en donnant les outils dans le désordre. Il va falloir que le marché et les professionnels et le consommateur s'approprient le fait que demain, quand j'achète un appartement aux copropriétés, je sais quel est le plan pluriannuel de travaux qui a été voté sur 10 ans.
Oui,
j'en connais la teneur financière, je sais ce qui a été exécuté, je connais l'épargne qui a été mise de côté et je sais ce à quoi je m'engage, comme aux États-Unis. Et je pense qu'avec en plus un élément très intéressant qui est la carte d'identité du logement ou la carte d'information du logement qui doit être, à mon avis, d'urgence mise en place à côté de ces plans pluriannuels. Moi, je serais aujourd'hui peut-être en situation de faire des propositions. Je regarderai ce qu'on a voté et j'articulerai un schéma de cohérence par rapport à tout ça. Par ailleurs, ces plans pluriannuels de travaux devraient être demain le seul juge de l'indécence des logements. Je m'explique. Le calendrier qui a été voté 2025, 2028 et 2034 est intenable. Tout le monde le sait.
Oui, tout le monde le sait.
Ben, comment on en sort politiquement?
On a interrogé la ministre sur le sujet. Elle nous a répondu la chose suivante. Nous ne reviendrons pas sur le calendrier parce qu'on veut créer une pression par rapport aux dates, mais bien évidemment, elle nous a fait comprendre que dérogations, extensions seront de toute façon possibles, parce qu'elle a convenu dans une certaine mesure qu'il n'était pas réaliste, etc. Mais elle a volontairement indiqué le fait que politiquement, elle voulait ancrer et angler avec des dates en disant, si vous voulez, le discours sous-jacent, c'est si je ne mets pas une date de pression, ça ne se fera pas.
Moi, je pense qu'il y a un fond de vérité. Il y a un fond de vérité.
Politiquement, elle n'a pas tout à fait tort.
Politiquement, je lui dis que le calendrier ne tiendra pas, il est inflationniste et le risque est énorme sur le parc privé locatif et l'État n'aura pas les moyens d'y suppléer si demain il y a un désengagement des bailleurs privés. Et je dis, tenons le calendrier, mais la dérogation, il ne faut pas que ça soit compliqué la dérogation. Moi, j'en propose une règle claire. Dès lors qu'un plan pluriannuel de travaux est voté, et on jugera de l'indécence des logements au terme de l'exécution du plan pluriannuel de travaux.
Ça le mérite d'être clair. Voilà, on a très largement dépassé le thème, mais c'est normal.
Pardon.
C'est notre tribune de rentrée. On a quasiment doublé de temps, mais on va garder cette émission en l'état parce que c'est important pour inaugurer cette rentrée. C'est très important. Je voudrais juste rajouter un chiffre sur ce que vous dites, Jean-Marc Touroulion, 12,5 millions de ménages dits locataires, 7 millions dans le parc privé locatif, 5 millions dans le parc social. Et quand on prend les pourcentages du parc privé locatif, on s'aperçoit que plus de 3 millions des usagers du parc privé locatif locataires répondent à tous les critères d'éligibilité du parc social. C'est là plus que jamais qu'effectivement les pistes doivent se faire. Et je pense que c'est bien de donner des chiffres parce que du coup ça calme tout le monde et on est très clair. Voilà, toujours un plaisir et d'apprendre beaucoup de choses avec vous, Jean-Marc Torollion, président de la FNIM. On va se retrouver dans pas très longtemps puisque effectivement on publie cette tribune avec un petit peu de retard, mais c'est normal, le calendrier nous y a poussé. Début février, on va retrouver Jean-Marc Torollion sur justement les prévisions que l'on va faire sur 2022 aussi, et on va être sûr, bien sûr, relayer avec toutes les importances que ça a, notamment jusqu'en mai, vous l'avez compris pourquoi, puisqu'on va être très attentif justement à interroger et à interpeller les parlementaires et les candidats et les soutiens des candidats pour cette politique du logement. On lâchera rien, voilà, c'est comme l'idée, c'est ce que vous avez fait, parce qu'aujourd'hui, quand on voit l'état de votre fédération, Jean-Marc, c'est juste remarquable comme résultat. Merci à toutes et à tous, merci Jean-Marc, et on se retrouve le mois prochain.
Passion Logement, une émission proposée et présentée par la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Jean-Marc Torollion.
Radio-immo.fr.
Une émission présentée par bienici.com.
Bienici.com, site d'annonce immobilière nouvelle génération.